Salut les curieux, bienvenue dans ce nouveau podcast de Nouvelles Portes. Je suis vraiment très content de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle discussion, pour une nouvelle exploration. Et ce coup-ci, je reçois Séverine. Séverine qui m'a été conseillée par Fanny, que vous avez certainement entendu dans un des épisodes précédents. Fanny qui est anthropologue et du coup, elle m'a recommandé Séverine, anthropologue également. Ce qui est très intéressant par rapport à cette conversation, c'est que on pourrait se dire deux anthropologues, même type de recherche, même modèle de pensée, puis au final, par le biais de curiosité justement, et puis par les personnalités, eh ben, ça n'a rien à voir. On a pu explorer des domaines complètement différents, les approches sont complètement différentes, et c'était très stimulant. Si je vous fais un petit teaser, vous aimez les petits teasers? Oui, je vous fais un petit teaser. Alors, donc forcément, on va parler un peu d'anthropologie, mais aussi d'anthropologie vidéo. Ensuite, on va parler plus spécialement de diversité, des écarts, qui ne sont pas les écarts que vous pouvez imaginer, de culture, de transformation, de transition, de super-héros, de société, de pensée chinoise aussi. Et puis, on s'attardera un peu sur les notions de lien, de sens, d'appartenance, le danger des certitudes, et puis aussi la consommation. Voilà. J'espère que vous passerez un excellent moment. En tout cas, moi, je me suis vraiment, comme à chaque fois, régalé. J'adore discuter avec tous ces gens inspirants et tout autant curieux que moi. Bien entendu, comme à chaque fois, si jamais vous avez envie de proposer quelqu'un qui vous inspire pour qu'il puisse inspirer les autres après une belle discussion d'une heure, n'hésitez pas à m'envoyer son contact. Et moi, de mon côté, j'ai quelques petites demandes à vous faire avant de vous laisser avec cette douce conversation. Comme tous les podcasts que vous devez écouter, vous avez bien compris que pour qu'un podcast puisse être découvrable sur Apple Podcasts, Spotify ou n'importe où d'autre, il faut qu'il soit noté avec les 5 petites étoiles, le 5 sur 5, un petit commentaire si vous avez le temps. Mais sinon, ça prend 30 secondes, ça permet de faire remonter le podcast. Le but du jeu, bien entendu, ça ne soit pas que Nouvelle Porte devienne une nouvelle référence mondiale du podcast, mais au moins que ça puisse remonter dans l'algorithme pour que des gens qui sont curieux, justement, et qui ont envie d'explorer dans tous les sens puissent le faire. Donc voilà, juste ce petit coup de main, ça serait juste fantastique. Je vais vous laisser vous plonger dans cette conversation. N'hésitez pas à vous allonger, à fermer les yeux. Ça part un petit peu dans tous les sens. Profitez du voyage. On se retrouve juste après. Bonjour Séverine et bienvenue du coup dans le podcast de Nouvelles Portes. Tu vas bien?
Je vais très bien. Je suis à Paris, il fait beau, froid
Il
mais
fait
beau.
ch... Ah, froid quand même,
Un peu
d'accord.
froid quand même, mais
On est.
je vais très bien. Je sens le printemps arriver et ça me réjouit.
Et tu penses que c'est normal que ça arrive maintenant, ce printemps?
Non, pas tout à fait normal. D'ailleurs, on pourrait parler d'anthropocène. C'est aussi une des thématiques qui m'intéresse. J'y avais pas pensé en réfléchissant au thème que je voulais aborder avec toi, mais oui, bien sûr, c'est un peu inquiétant.
Ok, alors on garde ça sous le coude et on pourra y ressortir
Ouais.
après. Toi, du coup, qui es-tu? Que fais-tu? Pourquoi es-tu là sur cette planète Terre en ce moment? Qu'est-ce qui se passe?
Je me le demande bien, de plus en plus d'ailleurs. Alors, moi, je suis anthropologue de formation, anthropologue de la consommation et aussi anthropologue visuelle, ce qui est une partie peut-être moins connue. C'est-à-dire que j'ai aussi un diplôme en cinéma anthropologique qui, depuis longtemps, en fait, m'habite, hein, parce que j'avais découvert le cinéma anthropologique assez jeune, notamment via les films de Jean Rouch. Je ne sais pas si tu connais Jean Rouch. Du
Non, du
tout.
tout.
Bon, en fait, c'est vraiment quelqu'un d'important à connaître, qui a été très, très précurseur dans le cinéma documentaire, mais aussi dans les approches de co-création avec les personnes filmées. Il avait développé un concept de cinéma participatif et participant dans les années 60, donc ça remonte à déjà il y a pas mal de temps. Lui-même, il était ingénieur au départ, hein, il n'était pas du tout anthropologue. Et puis, il était parti en coopération en Afrique. Et là-bas, en construisant des barrages, il s'est dit que c'était intéressant de s'intéresser aussi aux cultures locales. Et du coup, il s'est formé progressivement et il a dû réaliser au moins une cinquantaine de films. Voilà, il y avait beaucoup de récits, donc on était aussi dans une vision du documentaire assez construit. Voilà, toujours à la frontière avec la fiction. Et Jean Rouch, en fait, a influencé même pas mal des réalisateurs de la Nouvelle Vague, dont Godard, hein, qui le citait assez fréquemment voilà,
D'accord.
pour la liberté, le côté improvisation, notamment dans les dialogues, évidemment. Et voilà, donc c'est quelqu'un voilà, que moi j'ai rencontré assez tôt dans mon cursus, enfin dès que j'étais étudiante, je crois même avoir vu Moi, un noir, qui est un film absolument génial quand j'avais 18 ans. Et après Chronique d'un été,
OK.
et, ce film m'a tellement habité que j'ai même décidé d'en faire un remake. Voilà, et le film, bah, je viens de le finir cette année, donc on peut dire que voilà, j'ai eu aussi une obsession pour un objet filmique, qui est une obsession partagée avec une amie que j'avais rencontrée en master 2 de cinéma anthropologique. Et voilà, on avait ça dans un coin de notre tête et on a fini par le réaliser, à faire ce remake d'un documentaire culte qui s'appelait Chronique d'un été, qui a été tourné en 1961 donc par ce fameux Jean Rouch. Voilà, donc à la fois anthropologue, hein, pour revenir à ta question première, anthropologue de la consommation, hein, donc ça, c'est-à-dire que mon métier consiste à faire des études, mener des études exploratoires, aller à la rencontre des gens dans leur vraie vie, aller, voilà, que ce soit chez eux ou les suivre dans leur mobilité pour essayer de dégager des pistes d'innovation à partir, voilà, je pense d'ailleurs de choses que tu connais très bien, hein, qui sont à la fois les points de tension, de frustration dans la vie des gens, mais aussi leur représentation d'un produit, d'un service, tout ça inséré dans leur contexte de vie. Donc ça, c'est ce qui me fait vivre, voilà, qui m'intéresse aussi grandement, mais voilà, on est vraiment là sur ce que je considère être mon métier principal. Et après, il y a ce cinéma documentaire et anthropologique qui fait partie de mes projets personnels. Donc moi, j'essaye d'articuler les deux.
Ok, et je suppose qu'il y en a un qui a une portée un peu plus artistique, on va dire, que l'autre, et donc du coup, ça s'équilibre
Oui,
un
ça
petit
se
peu.
nourrit. Et puis, c'est vrai que du coup, moi, dans ma pratique même de conseil, hein, en anthropologie de la consommation, j'ai intégré très tôt l'outil vidéo. À la fois pour bon, capter des moments, etc., mais aussi pour donner la caméra parfois même aux personnes que j'interviewais. Donc depuis une dizaine d'années, je réalise pas mal de films où voilà, ça va de l'extrait illustratif qu'on peut utiliser en workshop à des démarches un petit peu plus poussées, plus créatives. Donc quand je peux, j'essaye aussi d'intégrer l'outil vidéo dans ma pratique professionnelle. Et puis, effectivement, sinon, tout ce qui est de l'ordre du cinéma plus créatif, documentaire, anthropologique, là, c'est à la fois des projets personnels de longue haleine, parce que, évidemment, le cinéma, ça prend du temps, même si sur ce film-là, avec ma co-réalisatrice Magali Braguard, on a eu des financements du CNC, on s'est mis quand même dans une logique de production un peu cadrée. Voilà, mais du coup, ça prend du temps, quoi. C'est vrai que c'est vraiment des projets long terme.
Est-ce que je peux te demander un peu plus de détails du coup sur le cinéma anthropologique? Parce que c'est vrai que je ne connaissais pas du tout le
Ouais.
concept. Et donc ça fait un bon sujet de curiosité.
Oui. Bah, si tu veux, le cinéma anthropologique, il est né début du 20e, hein. Il y a notamment un cinéaste très connu qui s'appelle Flaherty. Qui a commencé à filmer des Esquimaux dans le Grand Nord. Donc, il y a un film un peu culte qui s'appelle Nanouk l'Esquimau. Et là, il essayait, lui, hein, en étant aussi chercheur, de documenter un maximum des modes de vie qui étaient en voie de disparition. Donc, il y avait aussi une volonté d'avoir des traces comme ça d'ethnies et de populations qui étaient menacées. Et puis après, c'est devenu une discipline à part entière, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment rentré dans l'université. Et s'est développé d'ailleurs toute une anthropologie visuelle qui considère que l'image est un outil de connaissance en soi, hein, qu'elle n'a pas uniquement une fonction illustrative par rapport à un texte, mais que c'est un mode de connaissance d'ailleurs à la fois plus évidemment plus vivant, mais un mode d'accès à la connaissance sur un mode plus émotionnel. Donc à partir de ces pionniers qui étaient Flaherty, hein, il n'y avait pas que lui, il y a eu voilà, une anthropologie visuelle ou du cinéma anthropologique qui s'est développé dans les universités, et avec quelques figures de proue donc comme Jean Rouch, qui ont réussi quand même à diffuser leurs films au grand public, qui ont eu des prix, hein, puisque Jean Rouch, Les Maîtres Fous, qui est un de ses films aussi très très connus et qui parle, hein, de la colonisation, avait été présenté à Cannes dans les années 50. Voilà, donc c'était aussi des films qui avaient pour
D'accord.
objectif de questionner la colonisation, les rapports dominants-dominés. Voilà, il y avait à la fois un cinéma de documentation, si tu veux, qui se voulait objectif, et après, très vite, t'es arrivé sur un cinéma quand même plus politique, plus engagé, avec en tout cas une volonté de donner à voir ce qui se passait, notamment dans les pays qui étaient encore colonisés, donc notamment en Afrique, mais pas que. Et après, si tu veux, aujourd'hui, ce cinéma, il continue à exister, mais sur un mode assez confidentiel. C'est vrai qu'à Paris, on a le Festival Jean Rouch qui a lieu chaque année, qui est assez prestigieux. Voilà, mais c'est donc il y en a comme ça dans plusieurs pays. Il y a une anthropologie, il y a un cinéma anthropologique assez dynamique aux États-Unis aussi, je crois du côté de San Francisco, de New York évidemment. Hein, je crois qu'il y a un festival qui s'appelle le Festival Margaret Mead. Donc voilà, on a des. Et qui continuent encore à essayer d'exister en tant que tel, sachant que les frontières sont de plus en plus floues avec le cinéma documentaire tel qu'on le connaît nous. Sauf que, à mon avis, ce qui constitue la spécificité de ce cinéma, c'est qu'il laisse encore une belle place au cinéma direct, donc à la captation, tu vois, du réel tel qu'il advient. Voilà, mais sachant qu'il y a aussi, comme en cinéma documentaire aujourd'hui, des films à dispositif qui sont très construits, avec des dispositifs de mise en scène qui sont très pensés en amont, et donc une part de fiction. Donc les frontières sont plus floues, mais voilà, et puis tu as encore tout un pan du cinéma anthropologique qui veut documenter tu vois, des populations qu'on ne voit pas très souvent filmées ou que l'on voit filmées d'une façon un petit peu caricaturale. Voilà, comme en ce moment, je passe pas mal de temps à sillonner les festivals, notamment en Europe centrale et même un peu ailleurs avec notre film, hein, qui s'appelle Reprendre l'été. Du coup, voilà, je me rends compte voilà, que c'est quand même un champ encore assez dynamique et que, y a une véritable réflexion sur ce qu'on donne à voir aussi. Et sur l'implication du cinéaste sur son terrain. On est souvent sur des temps très longs d'immersion avec les personnes qu'on filme.
C'est quoi que tu appelles temps très long, du coup, pour ce genre de
Ben, par
film?
exemple, nous, avec notre film, hein, qui était pourtant pas du tout en Papouasie ou sur des contrées éloignées, puisqu'on filmait à Paris. Notre film, il donne l'illusion qu'on a filmé sur une seule année et le temps d'un été. En fait, on a passé 3-4 étés, donc ça a été 3-4 années de tournage, alors certes uniquement l'été, mais du coup, bon, comme on voyait aussi nos personnages, entre guillemets, en dehors des séquences filmées, ça peut être des temps de fabrication et de lien avec les personnages très longs. Et là, je me souviens d'un film que je trouve assez beau, que j'ai vu, qui porte sur les voilà, enfin, sur une population, je crois que c'est les Sarawak, ça doit être en Malaisie. Ils ont passé au moins un an sur place.
D'accord.
Effectivement, ils filment pas tout de suite, ils prennent le temps de la rencontre, de l'immersion. Donc on est sur un temps long aussi de prise de contact, et pas du tout sur comme on le fait en documentaire télé, où très souvent tu as un informateur sur place qui t'indique qui interviewer, tu arrives, tu as 4 jours de tournage et tu as tes objectifs qui sont prédéfinis et tu t'en vas. Là, c'est vraiment très exploratoire souvent comme démarche, même s'il peut y avoir énormément d'écrits en amont, hein, surtout quand on est en recherche de financement avec le CNC. On est obligé d'écrire des dossiers qui sont parfois assez longs. Mais par contre, on est après totalement libre de prendre le temps qu'on veut et de s'éloigner un petit peu aussi de ce qu'on a écrit. On n'a pas du tout les contraintes imposées d'une chaîne derrière, hein. C'est des financements cinéma ou de toutes petites chaînes. Donc, on n'est pas dans la case documentaire avec ses objectifs précis. Ça n'a rien à voir. Du coup, il y a beaucoup plus de
D'accord.
liberté. C'est vraiment surtout un espace de liberté pour moi.
Donc d'un côté, tu as toute l'étude, les études anthropologiques qui vont être objectivées et bien carrées pour entrer dans les papiers de recherche. Et puis à côté, tu vas pouvoir avoir ce terrain d'expression
Ouais,
de cinéma
tout à fait.
anthropologique où tu peux traiter avec de l'image et en même temps intégrer aussi une part de jeu de jeu d'acteur, jeu de rôle, de fiction aussi pour mettre
Ouais.
ton propre point de vue sur le propos, quoi.
Ouais, tout à fait. Ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est et ça rejoint quand même mon activité professionnelle. On nous pose, hein, à nous anthropologues dans le champ de la consommation et de l'innovation, tout le temps la question de l'objectivité. À la fois parce qu'on est sur des toutes petites populations étudiées, et puis parce que bah, voilà, notre grille de lecture, ça reste quand même la nôtre. Donc même si on tente d'objectiver, y a quand même une part de subjectivité importante. Et je me suis posé exactement les mêmes questions autour du cinéma anthropologique et de ce qu'on appelle le cinéma vérité, qui est plutôt du cinéma vérité, où tu assumes un point de vue et où en fait tu en es extrêmement conscient. Donc il y a cette idée d'être conscient du point de vue d'où tu parles et d'où tu regardes le réel. Voilà, donc c'est aussi tout ce travail en cinéma anthropologique et aussi sur ma posture, ma façon de poser les questions, de construire aussi les espaces-temps et les dispositifs qui vont amener à une parole que j'estime intéressante. Ça nourrit aussi ma pratique anthropologique et ma façon d'interviewer, voilà, pour des entreprises.
Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené à être anthropologue, justement? C'est une révélation naturelle que tu as eue à un âge très juvénile, un peu comme Fanny, du coup, qui m'a donc que j'ai déjà avec qui j'ai déjà discuté en podcast et qui m'a conseillé du coup de t'appeler. Ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu bien plus tardivement, ou qu'est-ce qui s'est passé pour prendre cette branche?
Oui, alors moi, je pense que oui, j'avais entendu Fanny, hein, je ne suis pas allée au bout de son podcast encore, mais j'avais entendu, d'ailleurs, c'est toujours intéressant parce que je ne connaissais pas cette histoire. Elle s'est enracinée dans sa relation avec son grand-père, donc c'est venu très jeune, hein, cette initiation à l'anthropologie. Moi, c'est venu un peu sur le tard, hein. Pour être honnête, au départ, j'ai fait des études de publicité. Et très
D'accord.
rapidement, je me suis rendu compte, j'ai même travaillé un an dans une agence de publicité, que ça n'allait pas me convenir, que grosso modo, ça n'allait pas le faire, tout simplement parce que j'avais un esprit assez critique, que je pense avoir conservé, et que la publicité qui consiste quand même à enchanter le monde, hein, à construire du désir, voilà, moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Ce qui m'intéressait, c'était de déconstruire, de désenchanter, d'être sur la réalité de la vie des gens, leurs contraintes, leurs pratiques. Voilà, j'avais un peu une obsession de la vérité et il m'a semblé assez rapidement que seule la sociologie et l'anthropologie pouvaient m'apporter ça.
D'accord.
Voilà, donc
Ok.
c'est venu plutôt d'une volonté d'être en phase avec une posture intellectuelle assez critique, je pense, par rapport au champ de la consommation et donc, du coup, j'avais besoin de ce pas de côté et de la déconstruction et de l'ancrage dans le réel.
Et qu'est-ce que tu penses, du coup, ben, vu que c'est ton cœur d'activité d'être justement sur l'anthropologie de la consommation, qu'est-ce que tu penses du fait qu'il y a de plus en plus justement d'entreprises qui viennent vous voir pour vous dire j'ai envie de savoir vraiment comment sont les consommateurs. Est-ce que tu vois ça d'un regard bienveillant ou est-ce que tu as un regard critique aussi là-dessus par rapport à justement ton engagement de vérité par rapport à ton activité?
Mais oui, bah, je suis les deux, je suis bienveillante et critique. En fait, j'ai vu une seule chose de toi avant de qu'on fasse ce podcast. J'ai vu une vidéo où tu parlais, toi, de ta méthode en design thinking et où tu en fait, tu concluais sur le fait que le digital aujourd'hui devait pas être juste un moyen comme ça voilà, de gagner de l'argent vite, de faire des économies, mais qui devait mettre en lien aussi les gens, vraiment connecter les gens, et qu'on ne pouvait pas penser de façon, enfin, uniquement de façon court-termiste. Voilà, donc moi je me méfie quand même de l'instrumentalisation d'anthropologie à des fins d'innovation qui seraient trop rapides. Donc je suis à la fois très contente que les anthropologues aient le vent en poupe, parce que je sens une réelle écoute, comme je n'ai jamais senti. J'ai 45 ans, donc ça fait 20 ans que je pratique ce métier. J'ai beaucoup souffert de 25 à 35 ans, parce que j'avais vraiment l'impression de répondre uniquement à une demande et d'être un peu, tu vois, dans cette médiocratie que dénonce Alain Deneau. Je ne sais pas si tu connais ce chercheur canadien qui a travaillé un peu sur l'expert moyen, celui qui répond à la demande sans faire de pas de côté et sans avoir un regard critique. Donc moi, j'ai l'impression d'être rentrée dans ces cases-là et d'avoir répondu à la demande de clients de façon très conforme pendant 10 ans, et depuis un peu plus de 5 ans, d'être quand même, voilà, de pouvoir vraiment poser mon point de vue, de pouvoir discuter de façon beaucoup plus libre avec les clients qui sont dans le doute. Et ça, c'est toujours intéressant, ce doute, avec une forte remise en question des processus d'innovation en interne. Voilà, après, il faut, moi, je prône encore une fois un temps un peu lent. Même si j'entends qu'on peut innover vite, et c'est bien. Et dans ces cas-là, autant sans doute aller chercher des gens comme toi et Fanny, qui sont, je pense, sans doute des bulldozers aussi dans la façon de penser différemment. Voyez-vous, enfin, je connais bien Fanny, j'ai vu comment elle agit aussi avec ses clients. Elle pose le pas de côté comme un préambule. Donc, du coup, elle travaille aussi un peu la culture en amont. Et voilà, moi je suis un petit peu différente, j'aime bien prendre mon temps, et aussi aujourd'hui je m'autorise, parce que j'ai plus d'expérience qu'avant, à réagir. Donc voilà, quand j'entends qu'un client me dit, bon, j'ai vraiment envie de faire un peu d'anthropologie, de mieux connaître mes clients, mais bon, en même temps, il faut qu'on trouve des solutions, des quick and win.
Oui, le quick and win des entreprises.
Oui, le quick and win, mais gagner vite, d'accord. Mais gagner vite, est-ce que c'est pas perdre sur le long terme? Donc, tu vois, moi, j'ai une interrogation. Je comprends tout à fait les contraintes et les pressions que subissent les entreprises et les directions innovation. Bon, il y a des quick and win qui vont pouvoir effectivement générer du chiffre d'affaires et assez rapidement. Mais je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue le long terme. Voilà, c'est un petit peu un moment se poser et essayer de prendre un tout petit peu de recul. Donc ça, c'est la limite que je mettrais au recours à l'anthropologie aujourd'hui. C'est que c'est quand même un temps normalement de l'immersion un peu long, et que souvent on nous demande d'agir très vite. Tu vois, de faire quelques entretiens, de rendre. Et je m'y plie tout à fait, hein, je suis très flexible. Je rends des documents rapidement, je participe à des workshops. Voilà, j'ai l'impression qu'après, il nous manque peut-être un tout petit peu ce pas de côté qui dit, bon, attention, là où on en est, réfléchissons, disons-nous les choses aussi, tu vois, c'est pas parce qu'on est embarqué dans un processus qu'à un moment, on peut pas le remettre en cause.
Oui, bien sûr.
Voilà, mais sinon, je trouve ça superbe. J'ai jamais fait d'aussi beau terrain qu'aujourd'hui sur des sujets extrêmement variés.
Et toi, comment tu vois, du coup, de ton point de vue anthropologique, donc d'études justement un peu du réel, du vrai, des gens, de comment ça se passe dans leur quotidien, du point de vue de travailler justement avec des organisations qui, au final, se retrouvent à quand même façonner un petit peu le réel aussi à leur manière. Et puis certainement les interactions que tu as avec d'autres professionnels, avec d'autres personnes, d'autres chercheurs, d'autres gens qui pensent un petit peu aussi sur cette notion de long terme. Comment est-ce que toi t'imagines notre doux monde dans un futur plutôt moyen terme, je sais pas, à 10 ans, 15 ans, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce qui s'y passe?
Écoute, j'aurais envie de te dire que je ne suis pas très bonne en prospective, mais ce qui est sûr, enfin, et c'est une des deuxièmes thématiques d'ailleurs que je voulais aborder, c'est sur le rapport au travail et au sens. Bon, c'est un peu la tarte à la crème, mais je suis assez frappée du fait que voilà, de par rapport aux clients, hein, que je peux côtoyer, qui travaillent dans des grosses entreprises, ils sont eux-mêmes très très critiques, hein, par rapport au milieu dans lequel ils évoluent, et la parole est libérée.
D'accord.
Donc, certes, ils sont bien conscients d'être issus de cette culture d'une entreprise qui a un petit peu de mal à bouger, hein, même si on dit il faut déciloter, il faut décloisonner, il faut ouvrir. Donc, moi, je suis plutôt optimiste, parce que sur mes 20 ans, j'ai jamais trouvé que. À la fois, je trouve que les clients sont un peu perdus, qu'ils ne vont pas toujours très, très bien, mais ils le disent. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on sent qu'ils quittent un peu la posture un peu défensive, statutaire, de je suis directeur marketing, je suis directeur, pour dire autre chose de leur poste, de leur fonction, de leurs enjeux, que ce soit des enjeux professionnels mais aussi personnels. Donc je sens beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes et beaucoup de remises en question. Donc je ne peux pas croire que les doutes des cadres sup dans les grandes entreprises ne mettent pas à une remise en cause assez profonde du système. Et je pense que les nouvelles générations poussent pour que ça change. Voilà, après, écoute, après, c'est à se demander, quand on voit notamment sur Paris, hein, ce qui est une petite lorgnette, les modes de travail de ce qu'on appelle, sans doute à tort, la génération Y. Mais voilà, après, la question, c'est celle de l'injonction à la convivialité, au décloisonnement. Enfin, tu n'as plus de temps de travail dédié, tout s'interpénètre, le privé, le pro. Du coup, le travail existe-t-il encore? En tout cas, il y a des nouvelles formes de travail qui apparaissent. Peut-on défendre le travail? Comment? Voilà, est-ce qu'on ne se surexpose pas tous en permanence, en dévoilant qui on est aussi? Parce qu'il y a cette injection à l'ego exposé, tu vois, où on dit beaucoup de nous-mêmes souvent. Voilà, donc il y a des mélanges de genres, d'intimes, de pros. Bon, les espaces de coworking en sont un bon exemple, hein. Ils sont créatifs parce que c'est très décloisonné, parce qu'on se lâche, parce qu'on se parle, parce qu'on parle de nos contraintes aussi, parce que. Et du coup, ça, voilà, il y a quelque chose de débridé et d'intéressant, mais il est probablement pas accessible à tous, parce que ça demande d'avoir enfin, de développer des savoir-être. Des comportements et je pense que c'est pas accessible à tout le monde en fait. Donc voilà, comment on inclut aussi tout le monde là-dedans? Comment on inclut la personne qui n'a pas confiance, qui se sent pas forcément très créative, qui peut être un peu inhibée, qui a besoin d'être rassurée en permanence? Enfin voilà, si aujourd'hui c'est les valeurs d'autonomie, d'individualité, de créativité, de collaboration qui priment. Comment on fait avec ceux qui, voilà, qui, et il y en a beaucoup, quoi, qui n'ont pas forcément ces compétences-là et qui manquent de confiance en eux-mêmes. Donc, il y a,
Surtout,
voilà, je
voilà, c'est
pense
ça,
que.
c'est le problème aussi à tout le temps prôner un petit peu des valeurs, des nouveaux codes, parce que si les gens se disent, ah tiens, ça veut dire que ça va dans ce sens-là, du coup, si moi je veux retrouver un peu du sens ou faire des choses de ma vie, il faut que je sois créatif, il faut que je collabore et tout,
Ouais.
ça crée justement, comme tu dis, des injonctions où les gens qui n'arrivent pas à y aller dedans, et ben, ils se disent, bah, en fait, je suis bon à rien, et part aussi dans des travers de jugements qui sont négatifs, quoi.
Ouais, tout à fait. C'est pour ça, tu vois, tu parlais d'expression de soi. Il y a une injonction aussi à ça. Voilà. Bon, moi, j'ai toujours été dans cette un peu double vie où à la fois j'avais un métier qui me rémunère, qui m'intéresse, qui correspond à ma formation, hein, l'anthropologie de la consommation. Et puis à côté, j'ai toujours participé à des actions associatives, militante politique aussi, fait des films. Donc voilà, j'ai cheminé comme ça parce que j'avais besoin d'autres choses et de m'exprimer. Il y a sans doute une part d'ego là-dedans. Bon, tout le monde n'est pas n'a peut-être pas envie de s'exprimer aussi. Tu vois, donc, il ne faut pas qu'ils se sentent dévalorisés ou déclassés parce que non, ils n'ont pas un super projet dans leur besace, qu'il n'y a pas un objectif à long terme qui est plus grand qu'eux, qui les dépasse et qui fait rêver tout le monde à côté. Voilà, la tolérance, c'est important. C'est
Exactement, ouais.
important et c'est très, c'est, Voilà, et c'est pour ça que je suis contente aussi d'échanger avec toi parce que c'est important de continuer à lire. Je ne le fais pas assez. Voilà, j'arrête pas de te parler de temps lent, mais je suis toujours dans un temps speed. En ce moment, je travaille quasiment tous mes week-ends. Et pour le coup, j'aime bien pouvoir m'échapper et lire. Et de ce point de vue-là, je te conseille de lire François Julien, le
D'accord.
philosophe. Je ne sais pas si tu le connais.
Non, ça ne me dit rien.
Mais voilà, François Julien est vraiment quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la pensée chinoise par rapport à la pensée occidentale et qui aussi remet en question pas mal de nos concepts et de nos grilles de lecture, notamment celle de l'identité. Hein, lui, il s'intéresse plutôt aux ressources, hein, il parle de ressources plutôt que d'identité. Au lieu de parler de différences culturelles qui figent un peu, il parle d'écart et il dit que la rencontre est possible dans l'écart, hein, parce que l'écart, c'est l'antre. Et je trouve ça extrêmement intéressant parce que dans mon métier, je trouve qu'on a encore trop tendance à segmenter. Même les personas, etc., ça segmente d'une autre façon, mais ça crée aussi des différences. Voilà, donc je m'interroge aussi sur ce type d'outil hein, qui est très intéressant pour innover notamment, voilà, notamment dans les workshops de créativité. Après, je me demande dans quelle mesure... Il ne faut pas aller plus loin, décloisonner encore plus et inventer de nouveaux outils qui sortiront de ces catégorisations un peu trop rationnelles. Parce que la persona, si on y réfléchit, 2 minutes, elle n'est pas très loin de l'homo economicus avec sa rationalité. Et je pense qu'on passe à côté énormément de la dimension émotionnelle, voilà, qui fait partie de toute expérience et cette dimension émotionnelle et spirituelle. Il faut aussi savoir en rendre compte et c'est pas résumable à quelques valeurs, ça va bien au-delà. Donc là, il faudrait qu'on en discute, tu vois, avec Fanny qui s'intéresse par exemple, Fanny Paris, beaucoup aux spiritualités consuméristes. Mais je trouve qu'il y a des vrais enjeux aujourd'hui, même en termes de grille de lecture, de paradigme, pour sortir un tout petit peu de notre rationalité. Voilà, sachant que moi, je participe à beaucoup quand ça diverge, quand ça part dans d'autres directions et je. Voilà, peu importe pour moi que ça soit utile ou pas, c'est vraiment intéressant de procéder de façon un peu différente et de sortir de cette rationalité, quoi.
Et là où je te rejoins par rapport aux paradigmes dans lesquels on est très ancré, ce que tu disais par rapport à l'identité, c'est vrai qu'en plus dans notre système, plus ça va, plus on est des identités, mais on est des produits surtout, où il faut
Oui.
qu'on ait justement notre bon pack de services et de compétences qu'on est capable de mettre sur la table pour que on ait plus de
Oui.
valeur que quelqu'un d'autre. Et du coup, tout le monde se range un petit peu sur cette espèce de marketplace où les gens vont venir un peu se servir un peu là-dedans, quoi.
Ouais.
Et ça remonte pas mal dans plusieurs domaines. Je discute pas mal avec des personnes qui sont dans toute la recherche de comment est-ce qu'on pourrait créer de nouveaux tissu économique, avec des réseaux décentralisés, avec des choses comme ça.
Ouais.
Et en fait, pareil, la réflexion sur la valeur est souvent faite sur la personne. On dit non, mais en fait, voilà, on va sortir de la notion business classique, on va se dire que des personnes ont des compétences, elles peuvent proposer des choses, elles ont
Ouais.
donc une valeur. Si jamais des gens interagissent souvent avec eux et que ça se passe bien, bah, du coup, ils peuvent avoir des recommandations sur la valeur qu'ils ont, du coup, ils seront plus visibles et ainsi de suite. Et en fait, on reste encore sur la personne, alors que j'aime bien la notion que tu disais sur le. Sur l'écart
Sur
et ce qui
l'écart,
se
ouais.
passe entre, parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment, justement, des discussions que j'ai avec d'autres personnes, sur cette notion vraiment de se dire que ce qui est important, c'est pas forcément les personnes en elles-mêmes, ou les sujets en eux-mêmes, ou les connaissances en elles-mêmes, mais c'est le lien qu'il y a entre. Et la valeur est sur ce lien, et même la caractéristique, les caractéristiques à avoir, c'est sur ce lien. Quel est ce lien? Et ce qui fait que
Tout à fait, ouais.
potentiellement, si on est centré sur le lien, déjà on se décentre de la partie égo, la partie de la valeur qu'on a nous.
Ouais.
Et puis ça peut aussi potentiellement aller dans le sens de ce que tu disais juste avant sur le fait que, ok, il y a des personnes qui sont capables de se dire, bah, moi je vais rentrer dans une démarche où je vais me sentir un peu comme un héros dans la société, je vais la sauver, je monte des projets. Puis une autre personne qui va se sentir mal parce qu'elle va dire, bah, moi je suis rien, parce que j'ai rien envie de proposer, parce que je suis juste là à pouvoir donner de l'amour ou accompagner, quoi. Mais au final, si jamais on décentrait sur le lien, on pourrait se rendre compte, ben, que la personne qui joue son héros, si jamais il n'avait pas pas du lien avec 3-4 personnes qui, eux, sont là pour leur apporter un petit peu le cocon de confort pour que lui puisse être dynamisé, ben, en fait, il ne ferait rien du tout. Et du coup, ça mériterait d'être valorisé par le lien pour pouvoir valoriser justement toutes les personnes qui sont sur ce système.
Oui, tout à fait. De toute façon, le management aujourd'hui dans l'entreprise libérée, il est extrêmement basé sur un écosystème de personnes dominantes. Et tout ce qui est célébration des personnes de l'équipe, à chaque fois, ils sont individualisés et souvent d'ailleurs transformés en super-héros. Hein, tu vois beaucoup d'entreprises aujourd'hui où ils sont même grimés. Hein, enfin, c'est des personnages de BD, des super-héros. Et tu as l'impression que, en dehors de ça, il y a personne. Mais un écosystème, il est fait de places différentes, il est fait de diversité. Et dans cette diversité, il y a des places différentes, il y a des façons d'être différentes. Et voilà, donc c'est un peu étonnant. C'est-à-dire qu'on a voulu reconnaître la singularité en étant extrêmement centré sur les savoir-être et notamment l'oralité. Tu vois, il y a ceux qui parlent bien et les autres. Et du coup, on a oublié qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres façons de se poser au monde, d'être, de collaborer. Et comme tu dis, le héros de l'innovation dans telle entreprise, il est accompagné de plein de gens et ils ont tous ils apportent quelque chose. Et parfois, certains sont pas du tout reconnus à leur juste valeur, pour le coup. Et ça, c'est un peu inquiétant parce que du coup, ça devient aussi un système de compétition assez violent qu'on peut sentir. Alors moi, je le sens moins parce que mes copines anthropologues, on a un peu toutes des spécialités différentes. Après, je pense qu'on est beaucoup évalué à notre personnalité, hein, l'air de rien, notre capacité aussi d'adaptation. Bon, je ne sens pas de compétition entre nous, mais je pense que dans le design thinking, dans les consultants, j'ai déjà vu un tel qui arrivait avec telle boîte à outils, l'autre avec ça, et tu te dis, bon, c'est une sorte de surenchère, mais tu ne sais pas très bien jusqu'où ça te mène et quel sens ça. Et effectivement, le, comme tu le dis, ce qui est important, c'est le lien. Et le lien, ça fait quoi? Ça fait culture. Et voilà, donc c'est pour ça que pour moi, c'est important non pas de travailler sur des identités et des différences et de figer tout ça, parce que déjà, ben, ça veut dire qu'on ne bouge plus. Enfin, il faut que l'identité soit en transformation, il faut que ça soit en mouvement, donc je préfère parler, mais comme tout ça me vient de mes lectures de François Julien, je préfère parler de ressources, hein, voilà, même si ça paraît un peu trop objectif, mais des ressources dynamiques, hein, voilà, qu'elles soient humaines ou matérielles, et au lieu de parler de différences, hein, notamment culturelles, de parler d'écart, hein, et voilà, qui dit aussi tolérance, qui dit entre, qui dit échange possible.
Et sur cette idée de valoriser justement plus le lien que les individualités en elles-mêmes, est-ce que toi, dans tes études anthropologiques, tu as déjà vu justement des systèmes un peu peut-être ancestraux ou des traditions vraiment décalées et qui mettaient vraiment ça au centre et qui fonctionnaient plutôt bien?
Bah, moi, j'ai passé un peu de temps en Chine, hein. J'y reviens de temps en temps, ça m'arrive de travailler encore avec la Chine, donc j'avais fait ce qui était un DEA à l'époque sur l'élite chinoise, donc j'étais rentrée au cœur de ce qu'on appelle les Guanxi, donc c'est ce système de réseau de liens, hein, qui font que effectivement la communauté prime sur l'individu en Chine. Donc, j'avais pu l'observer très tôt et c'est parce que j'ai été immergée dans ce système qui était à l'opposé de ce que j'avais vécu en France que je me suis intéressée à ce philosophe, François Julien, qui justement avait approfondi l'idée de la pensée chinoise par rapport à la pensée occidentale, tu vois, très, très aristotélicienne. Et toute cette idée du potentiel de la situation, du potentiel du lien et de la façon dont les objectifs peuvent émerger justement des situations en fait et des relations plus que d'un objectif qui est posé a priori, ce qui est typiquement la pensée d'Aristote, hein, tu vois, tu poses un objectif, théorie, pratique, les moyens pour y arriver, voilà, alors que dans la pensée chinoise, C'est la situation aussi qui, à un moment de la situation, peut émerger un objectif nouveau et plus collectif et qui est en lien avec ton écosystème, les personnes présentes à ce moment-là, et d'où cette idée de ressources aussi. Et j'ai toujours trouvé ça très intéressant de l'observer en Chine, hein, quels que soient les groupes sociaux d'ailleurs, hein, que ce soit l'élite ou des minorités ethniques dans le centre de la Chine, en milieu très très rural. Et ça, c'est sûr que ça m'inspire toujours. Après, en Occident et en France, on est encore, ne serait-ce qu'en termes de RH, hein, sur des évaluations qui sont à la fois très, très individuelles et des pressions. Voilà, qui... Mais bon, je pense que l'articulation entre l'individuel et le collectif est encore complexe. Et puis ne parlons pas du collectif de travail dans les entreprises qui est mis à mal en fait, parce que le sentiment d'appartenance à l'entreprise est mis à mal. Et d'autant plus dans la génération de ceux qui ont 25-30 ans, qui changent de boîte souvent, qui raisonnent en termes de projet. Et du coup, bah, voilà, pour les entreprises un peu traditionnelles, c'est compliqué d'être face à des jeunes qui sont évidemment plus du tout dans des parcours linéaires. Et qui auraient besoin d'un renouvellement et d'un travail beaucoup plus fécond, en fait, pour rester dans l'entreprise. Parce que c'est quand même problématique. Il y a effectivement... la fidélité à l'entreprise est mise à mal. Il y a vraiment les talents, les ingénieurs, même chez Renault, etc., ne restent plus.
Est-ce que toi, tu sentirais que, justement, c'est parce qu'il y a cette évolution de culture sur, pas forcément les nouvelles générations, mais est-ce que cette culture vient justement de ces pays plus orientaux que c'est en train d'infuser chez nous? Est-ce que c'est l'apport d'Internet potentiellement? Est-ce que toi, tu as senti un petit peu le courant d'où il peut venir?
Oui, il vient de deux choses. Il vient effectivement de la mondialisation en général, de cette flexibilité, cette adaptation permanente, qui est aussi le propre aujourd'hui d'une élite chinoise, tu vois, sur le littoral, la Chine bleue de Shanghai, qui sont des gens qui sont dans l'opportunité permanente, l'adaptation, l'ajustement, et qui profitent des opportunités qui s'offrent à eux. Et évidemment, couplé avec aussi l'arrivée du digital et de toutes ces innovations et du fait qu'on pense en mode projet. Voilà, donc c'est le sens, c'est le projet. Et après, quand j'ai fini un projet, ben, éventuellement, je change de boîte ou je fais autre chose. Voilà, mais c'est vrai que les sentiments d'appartenance à l'entreprise, à la culture de l'entreprise, c'est quelque chose qui était très important pour des grands groupes. Aujourd'hui, bon, les équipes les plus jeunes, elles sont attachées au projet, au mode de collaboration qu'elles ont déployé, mais ça peut être sur un temps relativement court.
Et puis, est-ce que les valeurs et les principes, justement, c'est pas des choses que cette nouvelle culture qu'on est en train d'avoir nous, comment dire, on a envie de l'écrire en fait en même moment qu'on est en train de le faire potentiellement. Plutôt que de se dire, je rejoins un gros bateau qui a ses lignes de valeur et d'ADN, et puis il faut forcément que je les suive, mais ça vient d'où? Pourquoi c'est encore là? Est-ce que je peux réécrire avec vous? Non, peut-être pas forcément, et du coup, ça crée une dissonance là-dedans, quoi.
Oui, ouais, bah, c'est. Tu vois, Enfin, récemment, il se trouve que j'ai participé à un recrutement d'une boîte sur Welcome the Jungle, que tu dois connaître, je pense. Mm-hmm. Et c'était intéressant parce que donc on est vraiment sur bon, ça reste un employeur qui cherche à recruter et donc ça s'adresse aux candidats, mais c'est vraiment sur un mode affinitaire, donc et c'est une excellente idée parce que du coup l'entreprise est amenée à se présenter sur ses valeurs aussi, hein, et pas uniquement sur des compétences objectives. Elle est obligée de se présenter en tant que communauté, que de direction, de sens, hein, qu'elle confère à ce qu'elle fait, à son métier principal. Et donc, on imagine que le recrutement est aujourd'hui une rencontre. Ouais. Bon, c'est en tout cas, ça prouve, hein, c'est bien un indicateur que de toute façon, enfin, ces grosses entreprises doivent changer et aussi accepter que les jeunes générations et des questionnements assez profonds aussi sur le sens, sur l'éthique, sur les modes de travail. Et là, il y a des changements qui sont déjà en cours, hein. Voilà, mais après, il ne faut pas que ça soit un pansement. L'entreprise libérée qui bon alors qui supprime un échelon qui est le management intermédiaire par exemple, ça questionne évidemment parce que tu te dis que c'est finalement instrumentalisé pour des histoires de coûts et de réduction d'effectifs. Donc et les jeunes sont pas dupes. Donc à un moment la question du sens de l'éthique se pose réellement et je pense qu'il y a aussi enfin, il faut une remise en cause un peu profonde au niveau des RH, mais évidemment des autres fonctions de l'entreprise.
Et puis ça touche aussi même les autres secteurs, comme même le secteur de la institutionnel, le secteur de la politique, le fait que
Ouais.
justement on va nous demander de suivre des choses, ou on va nous dire qu'il y a des personnes qui vont écrire à notre place ou qui vont prendre des décisions qu'ensuite on va devoir refaire. Donc en fait toujours cette logique un petit peu top-down de personnes qui sont en haut un
Ouais.
peu sachant et qui nous font redescendre des choses qu'on doit faire. Et ça a l'air en tout cas de plus fonctionner non plus, quoi.
Oui, et puis c'est. Enfin, je pense que nous, anthropologues de la consommation, il faudrait que j'en parle avec mes camarades et collègues, mais tu vois, la crise des gilets jaunes, c'est pas une surprise pour moi. Et moi, ça fait 20 ans que je vois des petites classes moyennes se quand même largement se paupériser. Être concentré sur quoi? Uniquement sur l'accumulation des cartes de fidélité, les coupons de réduction, la volonté d'accéder aussi à des biens de consommation qui ont de la valeur, au moins symboliquement, tu vois, le dernier iPhone, etc. Mais tu sens que ce consommateur issu des classes moyennes, il est rentré dans une rationalité obsessionnelle d'économie, de coûts, et à un moment, il est en frustration permanente. Et en plus, ça s'est accompagné d'une sorte de dévitalisation des marques traditionnelles, hein, qui n'arrivaient plus à construire de sens ou qui n'étaient plus crédibles pour construire du sens. Donc, de ce point de vue-là, moi, je trouve que la crise des gilets jaunes, elle est compréhensible, hein. Finalement, tu te sens aliéné à un système qui, en plus, t'exclut et dans lequel il n'y a pas vraiment de sens. Et derrière cette question du pouvoir d'achat, il y a aussi une question de reconnaissance et de place dans le jeu social, politique, etc. Mais moi, j'ai tellement vu évoluer, tu vois, ces gens, parce que moi, je parcours vraiment toute la France, hein, que ce soit des grandes villes, mais aussi des plus petites villes et parfois en milieu rural. Donc, le niveau de frustration, tu le mesures bien. Et aussi une impression de déclassement par rapport à la façon dont vivaient leurs parents. Et qui est particulièrement évident pour ceux qui habitent dans les villes et qui ont subi la hausse des prix de l'immobilier. Donc là, effectivement, on vit dans moins de mètres carrés. Et puis après, quand on vit dans les zones périurbaines et qu'on fait ce choix-là, on est somme toute isolé, on est soumis à des mobilités pendulaires qui nous prennent du temps, qui fatiguent à l'extrême. Donc en fait, on a quand même l'impression globale d'avoir perdu en qualité de vie.
Et puis toi aussi, ce que tu me disais aussi, qui était lié à ton quotidien, à toi, la qualité de vie par rapport au temps. Parce qu'on peut toujours rentrer plus de choses dans son planning. Et pareil, est-ce que maintenant, en termes de consommation, je pense que tu le vois mieux que moi, mais vu qu'il y a beaucoup de choses qui sont avancées comme étant le côté expérientiel, vivre des expériences.
Ouais.
Ok, d'accord, on devient moins matérialiste, mais par contre, on a vu des expériences. Ça veut dire qu'il y a un peu une course à la consommation de l'expérience. En plus de ça, il y a la course à entreprendre et à proposer des choses. Et donc, du coup, on se retrouve dans une espèce de course effrénée à devoir tout le temps faire, tout le temps créer, tout le temps expérimenter. Et du coup,
Ouais.
le temps se retrouve complètement saturé.
Mmh.
Si on le voit comme un espace, quoi, un espace
Oui,
saturé.
non, mais on est toujours hyper consumériste, hein. C'est pas parce qu'on est passé d'une consommation d'objets, de produits à une consommation d'expériences que ça change la donne fondamentalement. Sur le principe, c'est exactement la même chose. Par contre, ce qui change, et là, Fanny travaille aussi sur ces questions-là, c'est les transitions, hein, les changements de vie, les transitions alimentaires, les changements de vie où tu changes de métier, où tu changes de vision de la santé, de la médecine. Là, par exemple, j'ai interviewé récemment quelqu'un sur un sujet qui est l'aromathérapie, hein, donc effectivement, se soigner par les plantes, par des huiles essentielles, donc une médecine plus naturelle. Et c'est quelqu'un qui a été dans l'hyper-compétition, qui est chef d'entreprise, qui a couru toute sa vie et maintenant il a envie de prendre soin de lui. Et pour faire ça, ben, il tente de ralentir, il se soigne différemment, il sort de la consommation voilà, d'un médicament pour traiter un symptôme et avoir une vision aussi un peu plus holistique du soin. Parce que voilà, l'huile en elle-même, hein, c'est quelque chose aussi de sensoriel, à la fois en termes de texture, d'odeur. Donc bon, là, il va, lui, vers une expérience plus douce et qu'il estime être plus respectueuse aussi de son corps et qui fait sens pour lui. Donc tu vois aussi tous ces changements, hein, toutes ces transitions vers d'autres modes de vie. Et qui touche particulièrement les créatifs culturels aussi, hein, on le voit bien, il y a des cycles après 40 ans où parfois voilà, l'hyper-productivité, l'hyper-consumérisme, l'hyper-travail, ben à un moment ça fatigue quand même. Hein, donc voilà, mais moi j'ai l'impression qu'on est dans une période de transition ou de cohabitation avec aussi des cycles où les gens peuvent évoluer fortement. Et du coup, à un moment, changer assez fortement aussi.
Et de quel œil tu vois justement, c'est intéressant que tu parles de cette logique de transition avec des personnes qui étaient dans l'hyperactivité économique ou vraiment à fond dans la structure capitaliste du système et qui d'un coup se disent, bon voilà, je vais ralentir, je vais prendre soin de moi, je vais changer un peu les codes, je vais essayer de partir sur des choses qui sont peut-être plus en rapport avec le vivant, avec la tradition, avec l'essence. Et le fait qu'il y ait vraiment une transition vers ça pour beaucoup de monde, ça crée aussi une nouvelle forme de marché. Et c'était Fanny justement qui avait écrit un article là-dessus sur tout le marché de la spiritualité et le fait que ça devient ultra bankable de développer plein de choses dans le secteur de la spiritualité, de l'holistique, que même quand on va se balader à la Fnac, on va trouver des bouquins sur révéler le chaman qui est en vous, trouver la connexion avec le cosmos, travailler sur les rêves lucides, enfin toutes ces choses-là qui potentiellement sont sur un penchant spirituel qu'on pourrait voir comme étant quelque part libérateur pour se dire, ok, bon, bah, peut-être qu'on était un peu dans une société prison, c'était enfermé dans des concepts capitalistes et ça coince, et du coup, là, il y a peut-être une brèche pour sortir. Et comment, de quel œil tu vois justement le fait qu'on puisse en faire un marché? Est-ce que toi, tu le vois comme aussi étant potentiellement un danger, où on va encore faire des boucles à rester enfermé dans un même système, ou est-ce que non, il y a des brèches qui vont se créer? Comment tu le vois ça?
Non, mais oui, il y a des spiritualités consuméristes, hein, qui sont des réponses par rapport à cette dissonance cognitive. J'en ai aussi pas mal parlé avec Fanny. Donc effectivement, il y a un moment quand le système ne convient plus et qu'on est au bord du burn-out, au bord du rejet, ben, on change, hein, de système. Donc il peut y avoir un événement, soit brutal, soit c'est une prise de conscience plus progressive et on change de système de croyance. Et c'est bon. Alors après, le problème, moi je pense que si ça répond dans l'immédiat à des crises qui sont aussi des crises existentielles, hein, des personnes, pourquoi pas? Ça a au moins ce mérite-là. Donc c'est un marché, mais après il répond à un profond mal-être, hein, une profonde souffrance. Donc voilà, si ça évite que des gens se suicident, que des gens tombent au fond du gouffre, bon, c'est une réponse. Après, elle me semble dangereuse parce qu'elle est probablement très enfermante. C'est-à-dire qu'à un moment, on change, on était dans l'hypercapitalisme, etc. Et puis, on va aller dans l'hyperspiritualité. Donc, on tombe dans les huiles essentielles, on va faire des jeûnes d'une semaine, 2 semaines pour se purifier. Donc, on rentre là dans un système de désencombrement et de retour au vivant, à la tradition, etc., comme ce que tu disais. Et on passe d'un extrême à l'autre. Et dans ces extrêmes, on est dans des communautés qui peuvent être un peu fermées aussi. Et voilà, moi, évidemment, je suis anthropologue parce que j'aime le syncrétisme, j'aime l'idée de piocher, j'aime l'idée d'être multiple. Et voilà, je regarde toujours ça avec un peu de distance et un peu d'inquiétude. Pour avoir travaillé avec Fanny un petit peu sur les transitions alimentaires, à partir de super aliments, notamment la spiruline fraîche, bon, on se rendait compte qu'il y en avait certains qui étaient dans un système, voilà, où ils avaient, où c'était clos, c'est-à-dire qu'ils étaient passés ils avaient changé de certitude, mais ils étaient toujours dans des certitudes. Et ça me semble un peu dangereux. Un peu dangereux parce qu'à un moment, bah, tu construis des communautés qui vivent à côté l'une de l'autre, mais qui ne vivent pas ensemble.
Du coup, tu te retrouves à avoir une segmentation qui se reforme d'une autre manière que la segmentation qu'il y avait avant.
Ouais, et comme tu dis, le lien, c'est quand même important. Et c'est clair que, bon, bah, après, heureusement, tu as des véganes qui sont extrêmement ouverts, mais c'est clair qu'à un moment, quand tu es dans vraiment un véganisme strict et que tu manges aucun produit d'origine animale, ça va être très difficile pour toi de partir. Voilà, moi, je connais quelqu'un qui est là-dedans. Bon, bah, elle se dit que non, elle ne peut pas aller en Mongolie parce que il mange que du yak, du lait de juments fermentés, enfin, ils mangent que des produits d'origine animale. Donc là-dessus, elle pourrait quasiment pas se nourrir. Donc il y a un moment où ça devient un empêchement aussi, où ça nous ferme des portes, où ça nous enferme. Bon, c'est ça qui est un petit peu, je trouve, dommage. C'est la rigidité que ce type de système un peu fermé peut engendrer.
Et puis le fait qu'on nous propose à chaque fois ces choses, justement dans toi, dans ton étude de tout ce qui est lié à la consommation, je trouve que même le terme consommation, en fait, est intéressant dans le sens où ça veut dire que on va acheter des choses qu'on nous a proposées, qu'on a préparées pour nous et qui sont censées être idéales pour nous. Et on va nous raccrocher des histoires sur ces choses-là en nous disant que c'est bien parce que ça porte telle valeur et tel principe, et ainsi de suite. Et après, on en arrive sur justement la création de marques religion où on a notre credo à suivre. Et du coup, les aliments ou les objets qu'on va consommer sont liés à ce credo. Donc ça va, on encourage cette initiative. Donc ça veut dire qu'on est plutôt bien ancré dans notre nouvelle religion. Et du coup, ça, on en revient sur le sujet même de ce type de podcast, quoi, c'est la curiosité. Justement, est-ce qu'on ne limite pas la curiosité par la logique même de la consommation, comme ça se fait, quel que soit le sujet, quoi?
Alors après, moi, c'est vrai que je viens d'une anthropologie assez dynamique qui croit que le consommateur n'est jamais un être passif et que dès qu'il s'approprie même une religion qui semble un peu fermée, à un moment, il va reconstruire du sens, il va détourner les usages de tel objet, il va à un moment, voilà, il y a quand même une dynamique, hein, toujours interne, qui fait que le consommateur, en s'appropriant le produit, le détourne parfois de sa fonction initiale et va réinjecter du sens. Donc voilà, donc bon, après il faut voir jusqu'où, comment. C'est clair que dans tout ce qui est ces nouvelles formes de spiritualité, il y a aussi des phénomènes de gourou. Donc c'est ça le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont dans le prêche et donc on est sur des terrains très fortement irrationnels. Qui à l'extrême peuvent mettre la santé des consommateurs en danger. Bon, c'est sûr que si tu jeûnes pendant 2 semaines, si tu manges plus que, je sais pas, du jus de raisin, et tu te fais ta cure pendant 2 semaines, à un moment, tu finis par être carencé, tu finis par être faible et tu peux te mettre en danger. Si tu soignes ton cancer uniquement en prenant tel type d'aliments, tu te mets aussi en danger. Donc, voilà, tout dépend un peu du degré d'adhésion à la religion et aux quelques gourous qui sont derrière. C'est ça je ne sais pas si Fanny t'en avait parlé, mais c'est comme l'histoire, par exemple, des extracteurs de jus qui sont récupérés par des gens un peu sectaires. Et voilà, donc à un moment, tu vas retrouver les extracteurs de jus Seb dans des vidéos YouTube avec des gourous qui te proposent de faire un stage à tel et tel endroit. Bon, et là, effectivement, ça pose aussi un problème pour ces industriels qui sont pour le coup, voilà, quand même des gentils progressistes qui croient aux modernités techniques et à la rationalité économique et qui ont un peu peur de ces détournements-là. Donc ça tire, tu vois, un peu dans tous les sens, je trouve. Après, bon, moi, encore une fois, je reste optimiste parce que je me dis que les gens, même qui sont dans ces croyances-là, ont une capacité de réinterprétation de ce qu'on leur propose, et que du coup, ça va forcément emmener ailleurs. Et ça, on l'imagine pas encore, mais je pense que, voilà, je pense aussi, mais ça, je suis peut-être trop optimiste, qu'à un moment, tu récupères aussi un peu de ton libre arbitre. Et qu'il y a tellement de contradictions de toute façon dans notre société que j'ai l'impression qu'on doute globalement tous un peu plus qu'avant. Et où à un moment, forcément, le réel nous rattrape et ça crée une nouvelle dissonance cognitive, ça crée une nouvelle interrogation. Voilà, moi, la seule peur que j'ai, c'est ces côtés extrêmes hein, qu'on peut voir dans l'alimentaire, par exemple, où, voilà, où tout d'un coup. Ou dans la santé, quand cette personne qui prend de l'aromathérapie me dit qu'elle n'a plus un médicament à la maison et qu'elle ne soigne ses enfants qu'avec ça, bon, ça pose question quand même. Que se passera-t-il quand l'enfant dira j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre? Est-ce qu'il saura détecter que c'est peut-être une appendicite, qu'il faut, oui, l'emmener à l'hôpital? Ça pose beaucoup de questions. Hein.
Ouais, le fait de se limiter justement à certains codes et ne pas rester en éveil sur les autres codes, ça peut apporter des axes de danger.
Ouais, c'est plus ça. Après, oui, on est dans une société hyper consumériste. Ça c'est très, très clair. Après, il y a beaucoup de choses qui, dans l'innovation, partent à la poubelle, hein. Donc, moi, d'où la nécessité, je trouve, du pas de côté à un moment à se poser aussi dans les processus d'innovation et puis de ce temps long de l'accompagnement. On est encore trop dans des systèmes, même nous, tu vois, consultants, anthropologues ou dans le design, etc., où on accompagne un temps. Et puis après, on s'en va. Et puis après, il se passe rien, en fait. Personne ne porte les projets d'innovation en interne. Enfin, on se rend compte que.
Ça, je vais pas dire le contraire.
Tu vois, ça.
Et pour ouvrir justement un peu sur cette vision sur la société consumériste, comme tu dis, on est encore extra consumériste, et puis on a basculé du produit sur les expériences, et puis du coup on commence à voir des choses qui sont aussi sur de l'expérience liées à des choses qui sont censées être beaucoup plus personnelles et profondes, comme la partie spirituelle, et puis il commence à y avoir des personnes qui vont te proposer des recettes, des retraites, pardon, de 5 semaines,
Ouais.
de 5 jours, de 6 jours, et puis il y en a de plus en plus des retraites, et puis du coup il y a de plus en plus d'intervenants qui sont censés être des référents dans leur domaine parce qu'ils ont écrit des livres ou parce qu'ils sont un peu gourous sur un sujet ou parce qu'ils savent. Et donc du coup au final, moi ce qui m'interroge, ce qui me rend curieux, c'est de se dire, avec tout ce développement des marques qui veulent devenir des religions, de ces codes de retraite et de moments de repos qui sont aussi intégrés dans ce processus, que tout est dans un but de continuer à au final acheter, consommer de l'expérience, et que la frontière commence à être quand même vraiment très très fine, comme tu disais, entre vie privée et vie pro, et que du coup, même en termes d'expérience, on va consommer de la retraite, qui normalement est censée être des vacances, donc la période de la vie, du loisir, et au final, on se retrouve à être consommateur en même
Ah
temps qu'on
oui.
est censé se reposer, et du coup, tout s'entremêle, et ça crée un très gros flou au final aussi dans la tête des personnes, quoi.
Ouais, non, ça crée un flou sur ce qu'on est en train de vivre. Je sais pas si tu avais lu un peu Laborie, tu sais, Éloge de la fuite, hein, qui disait que grosso modo, face à quelque chose d'un peu traumatisant ou un monde comme ça qui change vite, qui bouge vite, il y avait un peu trois postures qui sont soit l'adaptation, soit la résistance, soit la fuite. Et lui, il prenait l'éloge de la fuite, mais c'était une fuite inventive, c'était une fuite faite de hasard, c'était partir à l'aventure. Donc je ne sais pas, quand on part en retraite et que la fuite est organisée, cadrée et que c'est une expérience de consommation, parce qu'on peut payer 2000 euros pour jeûner autour d'une piscine, tu vois, hein,
Exactement.
tout en faisant du trek. Enfin, c'est-à-dire là, on atteint quand même des sommets de contradiction. Bon, enfin, ça prouve que les gens sont perdus. Ils sont perdus et ils ont à la fois besoin de liberté, hein, de fuite. Et de sécurité. Et on le sent tous à notre niveau. Quand on parlait du rapport au travail, On essaye tous d'avoir des espaces de liberté et on a besoin de sécurité. Et avec tous les statuts qu'on a, d'auto-entrepreneur à petit chef d'entreprise avec son EURL ou autre chose, on est toujours en train d'alterner ces pôles sécurité, liberté. Et après, je pense qu'on n'est pas tous égaux et qu'à un moment, quand la souffrance est trop forte, ben, tu t'en remets à quelqu'un qui organise la fuite. Alors, c'est sans doute une réponse. Enfin, on est, je pense, dans une phase de transition. C'est cette réponse-là qui semble fonctionner et sur laquelle, effectivement, un certain nombre de personnes, de marques jouent. Parce qu'elles offrent des réponses lisibles aussi. Hein. Tu vas mal, tu as mal au bide, tu as pris 10 kilos, ben viens effectivement faire ta cure, viens jeûner, on t'accompagne et tu vas en ressortir. Hein. Il y a une promesse très lisible, hein. C'est la promesse du ressourcement, de la revitalisation. Donc il y a un avant, un après. C'est un peu un. Voilà, c'est. Après, ça marche aujourd'hui, c'est une réponse sans doute temporaire. Hein. Après, bon, de toute façon, ça, c'est une tendance hein, qui, pour le coup, est vraiment de la consommation. Hein. Quand on paye 2000 euros pour jeûner, c'est pas rien. Faut rien bouffer. Et après, tu as la tendance à la gratuité de plein de services, tu vois, qui n'ont plus de valeur suffisante pour pouvoir être payés. Donc ça, c'est intéressant aussi, enfin,
Ouais, bien sûr.
dans notre mode consumériste, c'est quelle est la valeur de ce qui est gratuit, hein, de ce qui est offert, et qui parfois te rend de sacrés services. Ou en tout cas, je n'ai pas l'impression en tant que consommateur de payer. Et au-delà de ça, sur la gratuité, ben, la vraie question, c'est où sont nos espaces gratuits? Alors peut-être que quand tu fais ce podcast, tu vois, qui s'appelle les curieux, ou je ne sais plus exactement.
Nouvelle porte, c'est pour les
Nouvelle
curieux.
porte, c'est aussi une religion d'ailleurs. Mais
Oui, je sais. J'avais découvert ça quand j'avais basculé. Au début, ça s'appelait Nextdoor en anglais. Après, j'ai basculé du coup en français. Et puis, j'ai vu que c'était une religion. Je me suis dit, oh, bah, pourquoi pas, au final.
non,
Laissons,
mais
allons-y.
pourquoi pas? Parce que ton but, c'est la curiosité et il faut que ça soit un moment. Enfin, c'est pas une obligation, mais tu dis cet échange, il va être gratuit. Je ne vous demande pas de me parler de votre business. Après, vous êtes libre. Voilà, dans cette discussion, d'aborder ce que vous voulez. Et c'est important, en fait, ces espaces un peu. Enfin, moi, je suis une grande fan de podcasts. Je trouve qu'ils se sont démultipliés sur tout type de sujet aujourd'hui. Ils sont accessibles gratuitement. Il y en a qui sont très, très drôles aussi, avec des formes assez surprenantes, sur tout type de problématiques, avec. Parfois aussi des podcasts assez engagés politiquement. Et je trouve ça bien que ça circule aussi. Je suis assez contente aussi du retour de l'audio, hein, de la voix. Je trouve ça intéressant. Et d'ailleurs, moi qui ai beaucoup filmé, aujourd'hui, je suis contente quand parfois j'illustre en fait mes propos en prenant des verbatim audio.
Ouais.
C'est parce que ça, c'est un support à l'imagination et à la projection. Et je trouve ça intéressant pour les clients voilà, de pas se laisser emporter par l'émotion d'une image, mais aussi de se forcer à écouter et donc à se projeter, à s'approprier ce qui est en train de raconter la personne. Donc voilà, après, je pense que chacun à son échelle individuelle, on essaye de créer des petites bulles comme ça, qui sont des bulles de sortie de la productivité, de l'hyperconsumérisme. Pour essayer voilà, de se décentrer un peu.
Et
Et c'est bon.
si j'en reviens sur l'inspiration que tu peux avoir grâce à l'anthropologie, tes recherches, les autres interactions que tu as, est-ce qu'il y a des modèles de société qui justement ne fonctionnent pas du tout avec la partie consumériste que nous, on s'est créé et un petit peu imposé? Est-ce qu'ils arrivent à fonctionner justement que sur cette logique d'émergence, d'exploration, de collaboration autour de projets communs quand ça vient, et d'être vraiment sur cette démarche un peu plus complètement organique, en fait, tu vois ce que je veux dire?
Ben, moi, je n'y crois pas trop. Enfin, je pense que, par exemple, je suis partie au Pérou cet été. Je suis allée faire un tour sur le lac Titicaca, où il y a pas mal d'ethnies, on te dit, un peu générique, à la fois médiatique et même dans la recherche, hein, que certaines ethnies des îles du lac Titicaca vivent en autoproduction, en autarcie, avec pas de téléphone, qu'elles parlent que leur langage, qu'elles parlent pas du tout espagnol. Bon, et quand tu arrives sur place, à la limite du zoo humain pour certaines des îles, hein, où on sent que les touristes viennent les voir comme des. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre monde globalisé, c'est quand même très compliqué d'échapper à ça. Après, on peut voir hein, dans des mouvements contestataires, hein, ne serait-ce qu'en France, qu'il y a des tentatives hein, de fuite au sens où Labori l'entend, c'est-à-dire. Essayer de créer autre chose, de vivre différemment, ça, sur des ZAD, ça peut être dans une campagne, dans une communauté qu'on crée avec des personnes choisies, et où effectivement, voilà, je pense aux Perches notamment, où j'ai quelques connaissances qui ont changé de vie et vivent à l'échelle du village dans des communautés où on n'est pas loin de l'autogestion, de l'autoproduction, sur des modèles qui échappent totalement au capitalisme ambiant. Donc ça existe aussi à petite échelle.
Est-ce que tu en
Après.
connais justement qui sont imprégnés de l'expérience qu'on peut récupérer grâce aux études anthropologiques sur les traditions? Parce que je te rejoins sur le fait que maintenant, dans notre monde globalisé, on se retrouve à avoir un espèce d'écrasement de la culture occidentale qui écrase toutes les autres cultures, même quand ils sont éloignés de tout en apparence. Est-ce que dans le passé, il y avait potentiellement des modèles de petites sociétés qui fonctionnaient sans être dans
Ben,
la même logique que la nôtre,
souvent,
quoi.
par exemple, Malinowski, qui est un anthropologue assez connu, il avait fait un livre sur les Argonautes du Pacifique Sud. Mais bon, toutes ces ethnies et ces petites communautés, elles avaient quand même. Enfin, il avait peut-être une vision trop fonctionnaliste, hein, parce que c'est aussi une grille de lecture qui lui appartient, mais il y avait quand même des rôles. C'est-à-dire que chacune des personnes de cette communauté acceptait aussi d'endosser un rôle, d'avoir une fonction qui garantisse qu'on puisse faire société à l'échelle de cette communauté. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus compliqué dans nos sociétés occidentales où on a été élevé dans le culte de l'individu et du libre choix. Donc, on n'a pas été éduqué pour occuper une fonction, un rôle. On a été éduqué, voilà, l'injonction à être soi-même. Donc, quand on part de ce principe d'individualité, c'est très difficile de le comparer avec des communautés, tu vois, dites primitives, des sociétés dites primitives, parce que je pense qu'eux, pour le coup, ils étaient aussi voilà, dédiés à certaines fonctions, ils endossaient certains rôles, qui leur conféraient d'ailleurs une place hein, et qui donnaient du sens à leur existence et une place dans la communauté. Donc là, c'est un peu l'inverse. Ça part des individus qui vont s'agréger à un moment parce qu'ils ont des affinités, des valeurs communes, et ils vont créer quelque chose. Mais ça part des individus eux-mêmes, tu vois, et ça se fait sur un temps relativement court et souvent en réaction avec le monde actuel. Donc c'est aussi que ça se fait en opposition avec un système dominant. Donc c'est très différent. Mais c'est lié à la globalisation, à nos grandes métropoles, à notre système libéral et au fait aujourd'hui que tout circule en termes d'informations, de déplacements et qu'il n'y a plus de recoins du monde. Enfin, tous les recoins du monde sont connus.
Oui, il reste plus de zone
Il n'y a plus de terre
complètement.
à explorer. Non,
C'est vrai.
mais il y a plus de terre vierge où les gens seraient encore complètement coupés. Alors, il y en a quelques-unes, tu vois, tu vas pouvoir en trouver une, mais en fait, dans les faits, même quand tu lis certains articles, tu te rends compte que non, il y a quand même quelqu'un qui est en contact avec la ville qui est à 200 km, qu'il y en a un qui a récupéré un portable. Enfin, en fait, il n'y a plus de communauté totalement coupée du monde et qui vivrait comme ça, isolée, un peu repliée sur eux-mêmes. Et je pense que ceux qui essayent de recréer des communautés alternatives aujourd'hui, c'est complètement différent.
Ah, bien sûr, d'accord. Ok. Bon, bah écoute, ça fait 1h10 de conversation. Donc, je pense que je vais
Ouais.
pouvoir te laisser. Tu n'as pas trop mal au bras, du coup, parce que tu gardais ton téléphone contre ton oreille, c'est ça?
Non, du coup, en fait, j'étais sur haut-parleur puisque j'ai essayé de remettre, enfin, d'enlever le haut-parleur, mais je n'y suis pas arrivée.
Ah bon, bah écoute,
Mais bon, on a réussi à se parler
ça a bien
aussi.
marché. Je t'imaginais déjà en fait avec ton bras collé en hauteur sur un bureau pour pouvoir arriver à ne pas porter le téléphone. Bon bah ça va.
Non, non, si j'ai mal au bras, je t'enverrai un message incendiaire.
Oui, voilà, je m'occuperai de tes soins, de tes frais de soins.
Ouais.
Bon, écoute, merci bien pour cet échange, en tout cas. Très riche, on
Oui,
est parti dans tous les sens, mais c'est le propos à chaque
ouais.
fois, donc c'est plutôt le but. Il y a plein de petites sources à l'intérieur que tout le monde pourra récupérer, que ce soit des livres, que ce soit des points de vue. Donc j'espère que ça
Oui.
apportera un bon vivier à curiosité, justement.
Ouais,
Et
ouais,
puis voilà, je vais te dire au revoir. Et puis n'hésite
Oui.
pas, comme je l'avais demandé à Fanny, de pouvoir me proposer potentiellement des personnes qui toi t'inspirent et qui
Ouais,
te portent beaucoup
bien
de
sûr.
sources à curiosité, comme ça je pourrais aussi discuter avec eux et ça fera par effet rebond. Voilà.
Ouais, j'imagine. Et puis, ben, écoute, si j'ai cru comprendre que tu travaillais sur Paris assez fréquemment. Donc
Je
n'hésite
passerai te voir
pas,
avec plaisir.
voilà. Ouais,
Ça
tout à
marche.
fait.
Bon, bah écoute,
Merci,
à très bientôt
merci
alors. On se tient au
Fabrice.
courant. Salut,
Ouais,
merci
au
encore.
revoir.
Et voilà, nouveau podcast terminé. Ah, après 1 heure de discussion avec Séverine, j'ai pu découvrir quelques axes de réflexion que j'avais déjà eus, mais que j'avais pas pensé comme ça. Je reviendrai sur les écarts, je trouvais ça assez intéressant, cette notion d'écart. On y retrouve aussi justement dans la dialectique de Socrate, qui pourtant, comme on en parlait dans le podcast, est une pensée qui est très occidentale. Mais bah, lui, vraiment, c'était l'idée de se dire, bon, on va poser des questions-réponses, on va créer de l'opposition entre deux sujets, de gens qui sont potentiellement contradictoires, et hop, dans l'écart, au milieu de cette contradiction-là, on va trouver justement quelque chose de nouveau, explorer quelque chose d'intéressant. Et je reviendrai aussi sur cette notion de lien qui, pour moi, est très importante, et c'est aussi pour ça que je vous propose ces podcasts, c'est que ça vous permet de tisser un petit peu un lien avec des sujets de curiosité très variés, mais aussi un lien avec les personnes qui viennent dans ces podcasts, qui sont des vrais humains, accessibles, que vous pouvez rencontrer, contacter. Aussi du lien avec vos propres idées pour arriver justement à les explorer de manière différente. Et je trouve vraiment qu'il y a une grosse importance pour trouver du sens justement. Et pour se sentir appartenir déjà à soi-même, d'arriver à travailler sur le lien. Un peu comme on en parlait aussi pour tout ce qui est économie, ben voilà, se dire que ben, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans le lien et pas forcément ce qu'il y a dans les personnes en priorité ou seulement. Ça ouvre beaucoup de portes possibles. Donc voilà, si vous n'êtes pas en train de faire des tonnes de choses, faire, 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 n'oubliez pas que vous êtes certainement présent pour plein de choses qui ne sont pas de l'action, mais qui sont du soutien, qui sont de l'écoute, qui sont de la compassion, et qui sont tout autant importants et nécessaires que tout le reste. Et c'est pas moi qui vous le dis, c'est aussi une anthropologue, et c'est toutes des personnes qui sont rationnellement là-dedans, mais qui aussi ont du cœur, et qui justement veulent valoriser le cœur. Donc n'hésitez pas, ouvrez votre cœur et allez-y, quoi. Donc voilà, merci pour cette écoute. Comme j'ai dit au tout début, je le dis très rapidement, mais 5 étoiles, c'est super, ça permet de remonter. Parce que, bon, voilà, moi j'ai envie que les gens ils écoutent Séverine, quoi. C'est pour ça que je fais ces podcasts, ça serait cool. Voilà. Sinon, bah, on se retrouve bientôt sur Lyon pour toujours plein de nouvelles rencontres, découvertes. Donc n'hésitez pas à passer sur le site de Nouvelles Portes pour suivre un petit peu ce qui s'y passe. Comme vous l'avez certainement vu aussi, je ne partage plus vraiment sur les réseaux sociaux de curiosité. Je passe maintenant vraiment à chaque fois par la newsletter qui va regrouper justement les derniers épisodes du podcast, les derniers articles d'exploration, les derniers événements. Pourquoi? Parce que ben, vous êtes déjà dans un flot continu d'informations dans les réseaux sociaux, ça se perd et votre attention se perd aussi et donc du coup la curiosité ne peut que rebondir sur des choses qui vont être très légères et décontractantes, certes. Mais des fois, ben, on aurait envie de vraiment explorer. Donc voilà, vous avez la possibilité de suivre une lettre pour explorer une lettre qui arrive toutes les 2 ou 3 semaines, donc pas de pression. La logique du temps, comme on parle avec Séverine, un temps plus lent pour profiter. Voilà, si vous avez écouté ce podcast jusqu'à maintenant, ben, c'est que vous avez pris le temps, un moment pour vous peut-être, en marchant, en courant, des temps allongés. En tout cas, j'espère que vous avez récupéré justement des axes de curiosité pour faire vos propres explorations. Je vous dis à bientôt, vous verrez, le prochain épisode est un épisode un peu spécial. Voilà! Je vous laisse. À très bientôt et merci encore.